Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission de la Photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, nous avons encore et toujours Camila Rodriguez, CA à la régie. Nous avons nos trois chroniqueurs ce soir. Je vais commencer par Tessie Jean-Paul, ensuite Alex Bachalani et puis Francis Thérien. Bonsoir à tous.
Bonsoir Émilien.
Bonsoir.
Donc ce soir, on va parler de Justin Trudeau, on va parler aussi d'Haïti et on va également parler de violences sexuelles, mais on va entamer tout ça avec Francis. Francis, mercredi marquera le premier anniversaire de l'élection du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Tout le monde est content à travers le pays quand on voit le taux de satisfaction de Trudeau. Et toi, Francis, es-tu satisfait? Es-tu content?
Moi, je suis un gros rabat-joie, donc non. Je suis complètement insatisfait. Bon, pas complètement insatisfait, mais je suis un peu insatisfait. Mais il faut pas oublier que je suis pas le seul qui est soit un peu, en partie, ou complètement insatisfait de Justin Trudeau. Il y a les néo-démocrates qui vont pleurer mercredi en se rappelant qu'ils ont passé si près du pouvoir jusqu'à temps de faire un virage à droite puis d'être éliminés par les libéraux. Puis les conservateurs qui vont crier, peut-être pleurer aussi, parce qu'ils ont un premier ministre qui met une chemise rose dans toutes les parades gays au pays. Donc je suis pas le seul. Mais il y a aussi, puis pour une fois je suis comme eux, les radios de Québec qui sont tout à fait... déçus, hashtag liberté, hashtag majorité silencieuse.
Francis est d'accord avec les radios de Québec, explique-moi ça.
Ouais, je suis porte-parole de la majorité silencieuse ce soir, parce que même si 55% des Québécois et des Québécois se disent très satisfaits ou assez satisfaits de Justin Trudeau, selon un sondage Somme Cogeco, à Québec, c'est 56% des gens qui sont peu ou pas du tout satisfaits de Justin Trudeau. Évidemment qu'on est loin de Stephen Harper. Peut-être que les gens de Québec préféraient ça, mais c'est pas parce qu'on est loin de Stephen Harper que c'est parfait.
Ouais.
Puis pourquoi est-ce que, comme les gens de Québec, t'es pas satisfait, tu viens-tu de Québec?
Non, je viens du Saguenay, comme vous le savez peut-être, j'en ai déjà parlé. Mais je pense qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec les gens de Québec. Moi, je suis pas content que Justin Trudeau soit au pouvoir parce qu'il fait partie du complot islamo-gauchiste canadien et québécois que Éric Duhaime dessiné en carte.
Le complot islamo-gauchiste.
Ouais, ben il y a une belle carte, là, un diagramme avec toutes les membres du complot islamo-gauchiste au Québec.
Ah,
Éric Duhaime, merci. Radio X, merci.
Évidemment, ce complot-là a infiltré la clique du plateau.
Et de la petite Italie, dont je fais partie, évidemment. Puis, bref, moi, c'est plus parce que Justin Trudeau n'est qu'image, selfie, photo, discours. Le seul qui l'a compris, là, dans les médias, c'est le prince George, qui a refusé de lui se taper dans la main avec son air snob de Brébeuf, comme disait Infoman. Mais dans les faits, là, soyons plus sérieux, après un an, selon le trudeaumètre.ca, sur les 219 promesses de la campagne électorale des libéraux, il y a presque autant de promesses brisées que tenues jusqu'à maintenant. Donc, 34 promesses ont été mises en place. 26 ont été juste simplement brisées, donc pas tenues. Il y en a 64 qui sont en cours. On ne sait pas encore s'ils vont se faire ou pas. Puis 95 des 219 qui n'ont pas commencé du tout. Donc, on ne sait pas quand, dans les trois prochaines années, ça va avoir lieu. Donc, oui, il reste deux ans, mais il y a quand même 10% du programme qui est juste non respecté, puis une bonne partie qu'on ne sait pas s'ils vont les mettre en place. Puis en termes de discours, en fait, semaine, Aurélie Langto publiait dans Le Devoir une lettre sur le féminisme, ou en tout cas le bilan féministe de Justin Trudeau. Puis elle disait « Trudeau a composé un cabinet paritaire, mis sur pied une enquête nationale sur les femmes disparues, assassinées. Saluons ça. » Par contre, les gestes poussés pour aller améliorer les conditions de vie générale des Canadiennes déçoivent. Il parle de la création d'emplois pour les femmes qui n'a pas nécessairement augmenté, que les programmes qui auraient pu permettre d'aider la condition des femmes n'ont pas été mis en place. Puis parlant des femmes autochtones, il y a plusieurs groupes autochtones, notamment les jeunes, qui ont critiqué dès le début la manière dont l'enquête a été mise en place. Donc, c'est pas parfait. Puis si on pousse un peu sur un autre aspect, on peut se demander si la manière avec laquelle Sophie Grégoire, maintenant Grégoire Trudeau, sur la page Facebook qu'elle a créée, est présentée, dans la manière dont elle est présentée, c'est réellement féministe. L'image de la femme du premier ministre qui est un peu comme états-unienisée.
Oui, mais en fait, c'est une femme mère, c'est ça, hein?
Une femme mère?
Oui, ben une femme mère.
Oui.
Mère comme mère de famille.
Oui, je comprends.
Je sais qu'on est dans la politique.
Mais oui, c'est ça. Ça avait commencé avec Lauren Harper aussi, qui était une femme mère. Puis qui se présentait comme une bonne femme au foyer, conservatrice de l'Ouest canadien. Puis là, maintenant, pour avoir l'air plus progressiste, Sophie Grégoire fait pas juste s'appeler Sophie Trudeau, mais Sophie Grégoire Trudeau. Puis elle fait comme un peu comme Hillary Clinton à la défense des femmes, des enfants, parle de santé mentale, de sa famille. Fait que c'est un peu la version deux filles le matin de Justin Trudeau.
Mais c'est ça, c'est des sujets très, très féminins auxquels elle s'intéresse, comme s'il y avait, c'était prédéfini. Là, on parlait de la possible présidence de Hillary Clinton, puis on se demandait, tu sais, si Bill Clinton, lui, est-ce que lui, en tant que First Lady, il va faire travailler pour les enfants, puis faire des concours de jardin, ou je sais pas trop.
Ben, il va peut-être s'occuper de construction, puis de barbecue à place. Mais bref, la manière dont on présente Sophie Grégoire Trudeau, entre guillemets, ben, c'est libre à l'interprétation de tous, mais a priori, j'ai des doutes sur le fait que c'est très féministe comme manière d'utiliser sa femme, en politique.
Mm-hmm. Mais en même temps, je te dirais peut-être que le féminisme ou le féminisme de marketing que Justin Trudeau semble utiliser est pas totalement erroné, dans le sens que, puis je suis la première à encourager les débats de fond, mais quand même, l'image qu'il projette est importante parce que ça envoie une image que c'est correct pour un homme de pouvoir, pour un homme qui est quand même à la tête d'un pays, d'être féministe, puis de se dire féministe, puis juste ça en soi, c'est quand même quelque chose, non?
Encore, il faut que les actes suivent les mots. Est-ce qu'il y a quand même des bons coups où les bottines ont suivi les babines, Francis?
En termes de féminisme, on peut en douter. En tout cas, Ariel Langteau en doutait en fin de semaine. Mais oui, pas tout est noir, ni tout est blanc. Le gouvernement consulte en ce moment la population canadienne sur la réforme du mode de scrutin. Ça semble un projet sérieux, ça semble vouloir aboutir. Le Canada a aussi accueilli des réfugiés syriens, comme c'était promis. Tant mieux. C'est là aussi où je suis pas d'accord avec les radios de Québec. Dans leurs dents aux radios de Québec. Mais oui, donc je suis plus partie de la majorité silencieuse à partir du moment où je défends l'accueil des réfugiés syriens. Puis finalement aussi l'allocation canadienne pour les enfants qui aident de nombreuses familles à travers toute la fédération. Donc il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont positives. Il se dit féministe, oui, mais est-ce que le discours va finalement aboutir un jour? C'est la question que je pose.
Ben, c'est une question à laquelle il va falloir répondre éventuellement.
On y reviendra.
On y reviendra. Merci beaucoup, Francis.
Ça fait plaisir. Merci, Emilien.
Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler du tremblement de terre à Haïti.
L'ouragan,
excusez-moi. Je me suis trompé.
Toi, t'as-tu suivi l'actualité, Emilien?
Je l'ai suivi, mais je me suis trompé. Il y a quelques années, j'aurais eu raison, mais bon, arrête de vivre dans le passé, Emilien. Donc, c'est ça. Il y a eu l'ouragan qui a frappé Haïti, donc qui a fait de nombreux morts. Mais Tessie va nous parler un peu de la couverture médiatique de cet événement-là.
Exactement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé, c'est rare, là, j'ai nommé ma chronique, je l'appelle « Camouflage d'un pillage occidental ». Donc, ça me tentait aujourd'hui.
Ça commence en force.
Ouais, exactement. Donc, c'est ça, il y a deux semaines, l'ouragan Matthew de catégorie 5 a fait la manchette dans les médias, non seulement par sa force, mais aussi par le fait qu'il se dirigeait dangereusement vers les îles tropicales telles que Cuba, la République dominicaine et Haïti. Cependant, suite au déferlement de l'ouragan sur les îles, on ne retient que dans les médias les dégâts faits à Haïti. À cause du nombre de morts, oui, probablement, puisque c'est là que le nombre de victimes est le plus élevé. Le dénombrement de victimes atteint plus de 1000 morts aujourd'hui. Résultat, Haïti suscite encore une fois la pitié à l'international. Donc aujourd'hui, je mettais l'accent là-dessus sur la couverture médiatique qu'on a d'Haïti dans les médias. Aujourd'hui, la chose qui est ressortie beaucoup dans les médias a été perçue aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres au monde et où le niveau de corruption est le plus élevé. Haïti est le symbole, tu sais, est encore le symbole un peu, on pourrait dire, du paternalisme occidental. Plus de 200 ans après leur indépendance, donc il faut savoir qu'Haïti est une république à la base. Donc, tu sais, tout ça, ça amène chez moi une certaine réflexion à savoir, pourquoi on a toujours les mêmes mots, les mêmes discours, la même couverture médiatique à chaque fois, que ça soit du tremblement de terre, des crises de choléra, ci et ça. Cette couverture médiatique, pour moi, elle est oppressante. Ça fait oublier la grande histoire de ce pays-là. Les gens savent pas réellement c'est quoi, quel est le pays d'Haïti? Haïti, en fait, est la première république noire au monde. Donc, suite à une incroyable révolte, je dis incroyable parce que, bon, c'est pas tout le monde qui réussit à s'émanciper puis à devenir une république, là, on le voit justement.
Il y a eu deux échecs au Québec, là.
Écoute, c'est ça.
Puis je pense que c'était la première en Amérique latine, non?
Ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça, c'était la première. Puis, justement, ça a été la révolte. La révolte a été faite en Haïti par les esclaves qui ont mis en fait les forces françaises dehors. Haïti se libère de l'armée française et fête sa première victoire, donc le 1er janvier 1804. C'est sûr que ce mouvement-là a initié beaucoup d'autres mouvements d'émancipation, non seulement aux États-Unis. C'est sûr que bon, le temps est pas le même, là, mais aux États-Unis, la fin de l'esclavagisme s'est terminée au milieu des années 1860. Et puis au Brésil, eux autres, 20 ans après, bon, c'est sûr que c'est pas au même rythme, mais quand même, ça a initié vraiment un grand mouvement d'émancipation là-dedans. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'actualité Facebook, le 1er janvier, les soupes Jumou, tout le monde en parle, puis ah, c'est tellement bon, mais c'est ça. La soupe Jumou, elle est là pour un petit peu signifier la fête, signifier la libération. Donc, dans les familles haïtiennes, c'est toujours ça qu'on fait le 1er janvier. Donc, suite à l'indépendance, l'économie française a frappé un mur puisqu'elle était pratiquement entièrement basée sur le commerce triangulaire qui était avec, bon, l'Afrique, la côte brésilienne avec l'Amérique et l'Europe. Donc, c'était ça le commerce, c'était ça, là-dessus était fondée l'économie. Puis, en fait, quand tu perds ta première force économique, ben, c'était un petit peu, on s'entend qu'on est dans le rouge un peu. Donc, aussi fou que cela puisse paraître, Haïti a dû dédommager la France. Donc, la France, c'est... Ben, on a comme... Les Haïtiens ont techniquement vécu sur leurs bras pendant, tu sais, un certain nombre d'années. Donc, ils ont dû dédommager la France. C'était la dot donnée, c'est une dette, en fait, là, donnée était de 90 millions de francs. Qu'est-ce qui équivaut aujourd'hui, si on la ramène aujourd'hui, à 20 milliards de dollars? Donc, tu pars un pays, une république avec une dette en plus, puis très bien, on pourrait dire, colonisé. Donc, l'émancipation, c'est pas faite à un prix... la France n'est pas juste partie. Donc,
Voulez votre liberté, ben vous allez payer pour. Hein.
Exactement. C'était pas des conditions de guerre normales, puisque normalement, si tu perds une guerre, ben écoute, la personne qui a perdu, elle s'en va de les terres, tout simplement. Il n'y a pas de « on va payer » ou peu importe. Il n'y a pas ça. Mais vu que, bon, c'était des esclaves, le même concept de guerre n'est pas le même. Et Haïti a servi d'exemple, en fait, et de mise en guerre garde pour les autres îles souhaitant un jour s'émanciper de l'impérialisme occidental. Donc, je parle aujourd'hui de la Martinique, qui est encore un département français. Si vous allez voir sur Wikipédia, c'est encore région de la France. La Guadeloupe, la même chose. La Nouvelle-Calédonie, pareil. Toutes des anciennes colonies, entre guillemets, parce que aujourd'hui, on va pas dire colonie, on va dire département français d'outre-mer, mais on s'entend très bien que c'est des colonies. Puis, en fait, Haïti a servi vraiment d'une espèce de bouc émissaire pour tout le reste. Puis aujourd'hui, je fais cette chronique-là parce qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup de critiques en disant « Ah, les Haïtiens sont comme ci, les Haïtiens, ils sont pas capables de se mettre ensemble, il y a la corruption, c'est eux autres qui créent leur propre malheur. » Puis même la semaine dernière, on parlait justement du clan Clinton qui avait vraiment une corrélation forte entre la corruption en Haïti puis le clan Clinton. Donc juste des courriels qui ont été mis publics comme quoi que il y avait une corrélation entre l'élection de Martelly, l'ancien président d'Haïti, puis le clan Clinton. Donc il y a des réflexions à avoir beaucoup plus poussées aujourd'hui face à la situation des Haïtiens en Haïti, plus que c'est des pauvres gens et qu'on a pitié et autres. Donc aujourd'hui, je fais une critique alternative.
Puis c'est très misérabiliste aussi. Ouais. Oui. Toutes les gens de l'hémisphère sud ont tendance à parler d'eux un peu avec un ton comme de pitié, un ton où est-ce qu'on met la pitié, la condescendance. On dit ces gens-là, ils n'ont pas eu notre chance. Ces gens-là, tu sais, ils sont moins fortunés. Puis c'est tout le temps ce ton-là qui est quand même, on va se le dire, ça a un impact. Puis ça dénote de la manière aussi que l'image du pays, en fait, ça dénote de la représentation qu'on a de ces cultures-là.
Exactement. T'as tout à fait raison, Camilla. Puis c'est justement pourquoi que je fais cette chronique-là aujourd'hui, parce que je pense que en tant que, non seulement, tu sais, moi-même, je suis d'origine haïtienne, mais c'est tannant d'entendre ce genre de commentaires-là tout le temps. Il faut être capable, nous-mêmes, de trouver les réponses, puis d'être capable de répondre à ce genre de couverture médiatique constant. Donc, non, je ne m'apitoie pas sur mon sort, et j'espère un jour que oui, mon pays va se relever, mais pas avec toutes les tutelles et les Américains sur le côté. Donc, en tout cas, moi, c'est ma critique d'aujourd'hui, puis c'est ça.
Ben, c'est un beau message, une prise de conscience collective, donc, à faire. Merci beaucoup, Tessie. Donc, on va écouter maintenant Can't Wait de l'artiste Twist. Donc, c'était la très courte, mais la très énergisante Can't Wait de Twist. Donc, maintenant, vous êtes de retour toujours à la faute aux médias sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Troisième chronique ce soir, troisième, la dernière mais non la moindre, celle d'Alex Bachalani. Alex, tu vas nous parler d'un problème qui t'énerve au plus haut point, la violence sexuelle.
Effectivement. On a pu voir que les thèmes de violence et harcèlement sexuel sont de plus en plus courants, surtout au sein des médias québécois. Le mois dernier, il y a un article de Philippe Tessara Lessard qui a été publié dans la presse, qui a suscité un certain buzz auprès de la société québécoise. L'article rapportait des événements hypersexualisés qui sont survenus lors d'initiation à la faculté de droit de l'Université de Montréal, dans lequel les étudiantes avouaient devoir se dévêtir au cours de certaines activités. Puis de plus, justement, cette fin de semaine, qui vient juste de passer, il y a eu plusieurs femmes à l'Université Laval qui ont dit être été victimes d'agressions sexuelles. Puis le service de police de la Ville de Québec a par la suite rappelé aux étudiants et étudiantes des résidences de l'université de bien verrouiller leurs portes.
Incroyable.
Au cours de la nuit.
Ben oui, ça c'est le même argument de... Tu portais une jupe, ben voilà, c'est la
exact,
raison pour laquelle
exact.
Ça
c'est
arrivé.
Vraiment de blâmer les victimes, encore une fois. Puis encore pire, souvent on voit même les médias y participer. Puis ça me rappelle toute l'histoire de Brock Turner, l'étudiant de Stanford qui a violé une jeune femme en janvier dernier. Les médias n'arrêtaient pas de mentionner que c'était un athlète, en train de le valoriser, au lieu de l'identifier comme un violeur, tout court. Puis il a seulement servi 3 mois en prison. Maintenant, il est libre. Puis... je trouve vraiment que tout ça, c'est une joke. Comme à un moment donné, on doit se réveiller en tant qu'homme et réaliser qu'il y a vraiment un problème au sein de notre société. Il faut arrêter de blâmer les victimes de violences sexuelles et au contraire, éduquer, comme du monde, les jeunes hommes à respecter les femmes. Moi, je trouve que c'est quand même simple. Je repense à mon enfance, à mon adolescence. Jamais à l'école, j'ai eu un cours ou une période de sensibilisation sur le thème de la violence sexuelle.
Du consentement.
Exact, exact. J'entendais juste des trucs du genre « Ah, les filles, essayez de vous habiller avec pudeur, marchez pas toute seule la nuit. »
Tu peux pas faire ton examen si t'as une camisole. c'est arrivé dans mon école.
Ou de pas avoir de camisole durant la période d'éducation physique. Là. C'est comme un petit peu... t'emportes parce que ça pourrait attirer les garçons, mais là, c'est comme si c'était de ta faute. Là. Très jeune, t'es déjà initié à ça, là. C'est spécial.
C'est ça, puis... ou juste même comme laisser pas votre verre traîner n'importe où au bar. Comme... oui, logiquement, c'est des façons de se protéger, mais une femme ne doit pas se retrouver obligée de respecter ses règles inventées pour éviter de se faire violer. Puis, si je pense comme ça, moi, ça ne fait pas de moi un féminazi, comme beaucoup d'hommes qui pensent. Oui, je supporte à 100% l'idéologie du féminisme, mais je ne suis pas vraiment impliqué dans le mouvement. Puis, honnêtement, moi, je trouve que ça me dépasse vraiment. Comme moi, c'est vrai qu'on peut m'identifier comme étant un homme qui matche les stéréotypes... classique macho masculin. Comme je pleure rarement, je prends des burgers avec extra bacon, j'adore le football, et oui, les femmes me fascinent, mais je sais comment les respecter. Et je pense que c'est la plus belle forme d'admiration de la femme, justement, si t'es capable d'être traité comme un père sans vouloir manifester ta domination masculine et tes privilèges d'homme. Bref, ça pour revenir au problème d'agression sexuelle et de violence sexuelle incitant la culture du viol au Québec. Comme on dit en bon québécois, ça va faire. Et j'espère vraiment que la ministre Hélène David va changer quelque chose dans le cas des universités et qu'on puisse voir une réforme au sein de l'éducation masculine dans ce qui a trait au respect de la femme.
Ben justement, il y a une initiative là, à l'UQAM d'instaurer un cours obligatoire à la faculté de sciences politiques, justement pour la sensibilisation aux violences sexuelles.
Au consentement, je sais
plus. Au consentement aussi.
C'est un cours sur la culture du viol, je pense.
Oui, ben c'est une bonne initiative, là, parce que justement, nulle part dans notre parcours, on en parle, juste des petits cours d'éducation sexuelle, mais même là, à peine, là, on a eu quoi, 2 cours en sciences en secondaire 2?
Mais ça, moi, je pense que ça devrait commencer vraiment plus jeune que l'université. Puis secondaire.
Un peu comme ça, c'est le problème, c'est que c'est pas institutionnel, mais t'as le conseil du statut de la femme qui est allé avec Corias, qui... parler particulièrement aux jeunes hommes dans les écoles secondaires puis les cégeps à travers le Québec pour les sensibiliser au consentement puis à la culture du viol. Mais tu sais, ça, c'est des initiatives, oui, d'organismes publics, mais c'est pas des initiatives institutionnalisées.
Oui, puis c'est assez isolé, là. C'est pas un mouvement global.
C'est pas une solution à long terme, là. C'est comme, OK, on va faire un premier pas, mais ça prend plus que ça.
Oui, mais d'ailleurs, Alex, tu parlais de l'initiative de Hélène David, mais puis c'est un peu ce que les femmes disaient, à tout le monde en parle, les survivantes qui ont parlé de, dans le fond, la culture du viol, à tout le monde en parle dimanche dernier, c'est que c'est un peu... il faudrait aller plus dans la prévention que dans on va empêcher les initiations aux universités, parce que je pense qu'elle amène un chiffre comme, je pense que c'est 16%, je suis pas certaine, des agressions qui sont commises dans le cadre du des initiations, mais en touchant beaucoup plus la culture du viol, donc l'éducation des gens. Et on parle de l'éducation des jeunes hommes, mais c'est aussi extrêmement important de faire de l'éducation aussi pour les filles, parce que ce genre d'éducation-là, les filles reçoivent énormément de mauvaises réactions de la part de leurs consœurs également. Là, dire « Ah, t'as pas d'allure, t'exagères, t'es folle, tu gâches la vie du gars en l'accusant. » Tu sais, ce genre de commentaires-là, incroyable.
Fait qu'au final, c'est une question de socialisation.
Ouais.
Encore plus que d'éducation, là, c'est dès la petite enfance.
Effectivement, ouais.
Ouais.
Moi aussi, je pense. Puis, tu amènes un bon point tantôt en disant sur le consentement. C'est vrai que le consentement, on sait pas toujours c'est quoi. Puis, je pense que... Puis, justement, une des filles en parlait hier à Tout le monde en parle, dans le sens que le consentement, il faut le valider à chaque moment, tu sais, de la relation. C'est pas au début, t'as le consentement, puis à la fin, t'as le... Tu sais, il faut un suivi, puis déjà de comprendre qu'est-ce que le consentement.
C'est ça, tu peux le retirer à n'importe quel moment.
Exactement. Donc, c'est important que les jeunes soient sensibilisés à ça, parce que, tu sais, ça, réellement, sans oui, c'est non. Puis ça se peut que tu changes d'idée, puis c'est correct. Puis l'exemple du thé est parfait. C'est vraiment ça.
On va le publier sur Facebook tantôt. Le tea consent.
Ouais, c'est une très bonne idée.
Sur ce, c'était tout le temps dont on disposait, mais c'est une discussion qu'il faut avoir en tant que société. Donc, c'est certain qu'on va en parler encore sur les ondes de choc à la photo média dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, Tessie. Merci beaucoup, Alex, pour ta chronique.
De rien.
Et merci aussi à Francis Terrien et à Camila Rodriguez-CA.
Merci, Emilie.
Je vous laisse en chanson. On va se revoir la semaine prochaine. Donc, on écoute Colors de Roosevelt.